France Culture.
Donner aux jeunes gens qui se destinent au commerce avant leur entrée dans la pratique des affaires l'ensemble des connaissances indispensables à tout commerçant se livrant à des opérations d'une certaine étendue et contribuer ainsi à former des employés, des négociants et administrateurs capables non seulement de bien diriger le commerce national mais encore de développer les relations de leur pays avec les pays étrangers. En 1874, le directeur de l'école supérieure de commerce de Bordeaux définit ainsi le but des écoles supérieures de commerce qui commencent à apparaître sur le territoire français. Ces écoles de commerce sont de véritables lieux institutionnels en soi. Elles occupent une position à part sur la cartographie de l'enseignement supérieur et leurs positions les unes vis-à-vis des autres suivent des trajectoires fluctuantes entre coopération et compétition. Et à chaque mouvement, c'est tout un réseau de liens avec le territoire local qui se recompose, se renforce ou se distend au fur et à mesure que l'ouverture à l'international prend une importance symbolique mais aussi économique. Car c'est bien là toute la spécificité de ces écoles qui sont loin de représenter un groupe hétérogène. Toute leur histoire depuis la fin du 19e siècle raconte la nécessité de trouver un modèle économique et donc, peut-être plus que les autres établissements du supérieur, d'attirer des élèves dont les frais de scolarité constituent une manne essentielle. Classement, marketing, internationalisation, le marché des écoles des commerces dicte ses lois et interroge la façon dont ont évolué les buts de ces établissements, devenus lieu d'une certaine vision de la marchandisation de l'enseignement au succès sans cesse grandissant à l'aube du 21e siècle, puisqu'entre 2000 et 2010, le nombre d'étudiants inscrits en école de commerce a augmenté de 80%. École de commerce, les réseaux de la compétition, c'est le sujet de cette émission qui s'inscrit dans le thème d'une semaine entière consacrée à l'éducation dans Entendez-vous l'écho, à quelques jours du début de la phase d'admission sur Parcoursup qui aura lieu le 2 juin prochain. Nous sommes donc ensemble et en direct et jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Anouk Miliot, réalisé par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Alex Dang. Et pour arpenter la carte française des établissements des écoles supérieures de commerce, car ce sont majoritairement elles qui vont nous intéresser aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Jacquemin. Vous êtes économiste, professeur associé à Neoma Business School. Bonjour.
Bonjour.
Et je précise que vous êtes avec nous depuis les studios d'ICI à Rouen, également avec nous à distance. Marianne Blanchard, vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université Jean Jaurès et chercheuse au CERTOP, le Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir. Vous avez participé à l'ouvrage collectif L'espace scientifique français 17e-19e siècle, publié chez Classique Garnier en janvier 2025. Et vous êtes également l'auteur d'une thèse intitulée Socio-histoire d'une entreprise éducative, le développement des écoles supérieures de commerce en France, fin du 19e siècle 2010, soutenu en 2012. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Marianne Blanchard, si nous avons décidé de classer les écoles de commerce parmi nos lieux de l'école, de l'écho, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'on va le voir, leur développement se construit dans un rapport très spécifique au territoire, mais aussi parce que ce sont des institutions qui, en tant que telles, occupent une place assez particulière dans le système universitaire. Vous dites d'ailleurs dans votre thèse que ce sont des établissements privés qui sont situés pour la quasi-totalité hors du système universitaire. Est-ce que c'est là une caractéristique majeure pour tenter de comprendre, d'avoir un premier aperçu cette cartographie des écoles de commerce, Marianne Blanchard?
Alors oui, effectivement, c'est une première spécificité, ce caractère non universitaire et le fait que finalement, étant donné qu'en France, l'université est essentiellement publique, l'État est toujours resté à une certaine distance. Alors ça ne veut pas dire qu'il s'est totalement désintéressé hein, de l'histoire et du développement de ces établissements, mais tout du moins est-il resté à une certaine distance. Et là, on a une spécificité qui est, alors la France n'est pas le seul pays dans ce cas, mais néanmoins, par rapport à la majorité des grandes business schools dans d'autres pays. En France, elles sont restées non universitaires, alors que, pour prendre l'exemple le plus connu, la Harvard Business School est, comme son nom l'indique, intégrée à l'université d'Harvard.
Et par ailleurs, Marianne Blanchard, une petite précision s'impose, mais quand on dit hors du système universitaire, ça ne veut pas pour autant dire que ces établissements ne bénéficient pas d'une reconnaissance, vous l'avez dit, notamment de l'État et d'un certain prestige, que ce soit dans la sphère académique, mais mais aussi la sphère sociale. Certaines sont aujourd'hui considérées comme de grandes écoles. Alors, il est compliqué de définir ce qu'est une grande école, mais il faut tout de même le préciser. Hors du système scolaire, ça ne veut pas dire hors non plus de toute grille d'analyse et de prestige.
Oui, oui, bien sûr. Et par ailleurs, un certain nombre décernent aujourd'hui des masters qui, enfin, avec exactement la même le grade master, donc la même certification que les masters universitaires. Et de même, depuis 2021, elles peuvent décerner elles ont le grade licence pour leur bachelor, donc une reconnaissance académique, bien évidemment, oui.
Et puis, Julien Jacquemin, il y a une autre caractéristique qu'il faut aborder de front, et notamment parce qu'on a abordé cette notion de grande école qui est particulièrement intéressante parce qu'elle dit aussi quelque chose de ce marché, et je mets là des guillemets parce qu'on va revenir aussi sur cette notion-là, mais ce marché des écoles de commerce qui est largement structuré par les classements. Le journal Le Monde va même jusqu'à parler de capitalisme académique pour caractériser les écoles de commerce. Léo Cromenesi, responsable des classements pour le Financial Times, hein, qui chaque année publie son classement des meilleurs master en management du monde, estime ainsi que le ranking, le classement, donc c'est du marketing gratuit pour ces écoles et le marché est très compétitif en France. Alors on va s'intéresser à toutes ces notions-là, ouais. Mais est-ce que c'est vrai, Julien Jacquemin? Est-ce que c'est une autre caractéristique des écoles de commerce? C'est que plus que pour d'autres écoles, la compétition est une caractéristique essentielle.
Alors plus je ne sais pas, mais c'est vrai que la concurrence et les classements sont particulièrement importants au niveau des écoles de commerce en France. Et tout simplement un fait qui l'illustre assez bien, c'est la quantité de classements qui existent au niveau de la presse française. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a 6 ou 7 qui existent dans la presse écrite. Il y a Le Point, il y a Le Figaro, il y a L'Étudiant, il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi énormément de classements qui existent en ligne, donc il y a vraiment beaucoup d'effervescence à ce niveau-là. Et une des particularités des classements, la manière dont ils sont construits, que soit dans ce cas-ci au niveau des écoles de commerce, mais on l'a aussi au niveau du classement universitaire, par exemple le classement de Shanghai ou celui du Times Higher Education, c'est qu'il y a une forme de double dépendance au niveau de la construction de ces classements, qui sont des classements d'y agréger, où en gros ces institutions qui créent ces classements vont dépendre d'une part des informations qui vont leur être transmises par ces établissements, aussi d'autres informations que ces établissements qui font les classements vont récolter à gauche et à droite, et d'autre part vont aussi dépendre financièrement de ces institutions qu'elles vont classer. Et cette dépendance financière en France a principalement lieu d'une manière, c'est via la publicité. Dans d'autres cas, dans les classements internationaux, il y a aussi une dépendance parce que c'est des établissements de classement qui vont également vendre des services de consultance pour justement in fine améliorer le classement des établissements qu'elles doivent classer, donc avec un conflit d'intérêts. Et au niveau de la publicité, c'est des revenus non négligeables pour les organes de presse à la base de ces classements, parce que souvent c'est des numéros qui sont extrêmement, ça génère énormément de clics et ça attire beaucoup d'audience, et donc ça a des recettes publicitaires qui sont non négligeables. Et donc il y a une double dépendance qui fait que derrière il y a un conflit d'intérêts qui peut être potentiellement problématique. Et au niveau des écoles de commerce en France, effectivement, c'est quelque chose qu'on observe, et avec un de mes co-auteurs, Mathieu Lefebvre, on a étudié ça sur base de données empiriques qui viennent justement des écoles de commerce françaises. Et on voit qu'il y a vraiment deux outils informationnels, d'intermédiaires informationnels qui jouent un rôle. Il y a d'une part, il y a ces classements, et d'autre part, il y a ce qu'on appelle les accréditations. Donc c'est une forme de label privé à laquelle ces écoles essayent de courir après. Et on voit effectivement, sur base des données de préférence révélées, donc où les étudiants désirent postuler, on voit qu'effectivement ça a un impact sur leur choix d'orientation.
Ce qui est très intéressant, Julien Jacquemin, c'est que vous avez mentionné effectivement deux façons de juger les écoles de commerce. Il y a à la fois effectivement ce classement, mais vous l'avez mentionné, des classements, il en existe pour beaucoup d'autres écoles, pour les universités également. On comprend grâce à vous qu'il y a une importance, un écosystème aussi tout autour de ces classements qui est spécifique aux écoles de commerce. Et puis il y a ces accréditations, on va revenir là-dessus. Mais ces deux modalités finalement nous racontent quelque chose aussi du contexte très particulier dans lequel se trouvent ces écoles de commerce. Marianne Blanchard, l'offre des écoles de commerce est exponentielle. Au début des années 70, les inscrits dans les écoles de commerce françaises représentaient à peine plus de 1% de la population étudiante dans l'ensemble du pays. Ils sont 5% en 2010, avec une augmentation, je le disais en introduction, entre 2000 et 2010 de l'ordre de 80%. Pourquoi une telle explosion? Est-ce que c'est pour répondre à une demande en hausse, ou est-ce que c'est parce que c'est l'offre qui s'est un peu multipliée indépendamment de la demande?
Alors, en général, c'est vrai que, et enfin, c'est un discours souvent tenu par les écoles elles-mêmes de dire qu'elles répondent à une double demande. À la fois une demande des étudiants et étudiantes et de leurs familles et une demande des entreprises. Et justement, le point de départ de mon travail de thèse et des travaux qui ont suivi, c'est de montrer que ces écoles ont contribué tout au long de leur histoire à façonner cette demande, qu'elles, d'abord, elles ont dû se construire comme légitimes, c'est-à-dire que montrer qu'il y avait une nécessité, en fait, à se former au commerce et puis ensuite à ce qu'on appelait dans les années 60 l'administration des entreprises, aujourd'hui la gestion. Donc, se sont construites comme légitimes, puis ensuite comme grande école. Et donc, il y a tout un travail. On l'a dit, hein, ce sont des écoles qui dépendent énormément des frais de scolarité, qui sont engagées dans une compétition nationale, voire pour certaines aujourd'hui internationale. Et donc, cette compétition coûte cher, on y reviendra. Et donc, qui ont une nécessité aussi de croître, de recruter de plus en plus d'étudiants, d'étudiantes. Et donc, c'est passé par le développement de différents programmes. Donc, on a le programme historique, le programme grande école qu'on intègre notamment, mais pas seulement après une classe préparatoire. On a eu les masters spécialisés, les MBA. Depuis une dizaine d'années, on voit les bachelors éclore. Et donc, tout ça contribue en fait à accroître le poids des étudiants et étudiantes en école de commerce. Hein. C'est aujourd'hui 8%. Des inscrits D'accord. dans l'enseignement supérieur.
8% des inscrits aujourd'hui. En 2010, les étudiants étaient au nombre de 116 000. Julien Jacquemin, est-ce qu'on sait aujourd'hui combien d'étudiants comptent les écoles de commerce ? Et puis je crois que vous vouliez réagir aussi à ce qu'on était en train de dire.
Ouais, ben pour un peu compléter, donc ouais, on est plus ou moins à 10% maintenant en 2025, hein, sur base de mes extrapolations de l'ensemble des étudiants français qui sont dans des écoles de commerce. Et cette croissance vient de deux types de publics. Donc effectivement, c'est lié à des nouveaux programmes qui sont ouverts, qui ont attiré d'autres types de publics. Il y a une croissance qui est intérieure et qui a deux raisons. Donc qui est liée au fait qu'il y a une croissance démographique non négligeable en France et aussi une très forte attractivité comparative à des programmes en grande école de commerce par rapport à d'autres types de programmes. Je pense entre autres, la semaine passée, il y a un travail de recherche qui a été publié par l'Institut Montaigne et qui s'intéressait au STEM, donc aux formations plutôt technologiques, plutôt les formations d'ingénieurs. Et on voit clairement que ces formations-là ont eu beaucoup plus de mal à attirer des étudiants que les écoles de commerce. Et donc, il y a vraiment eu un énorme effet d'attractivité, en particulier les 10 dernières années à ce niveau-là. Et il y a un deuxième levier aussi, c'est au niveau de l'international. Si on regarde en 2000, à peu près 5% des étudiants, 3-5% des étudiants étaient des étudiants internationaux. Et maintenant, on est plutôt autour des 20%. Donc, on a vraiment une augmentation non négligeable, même si c'est principalement lié à la croissance démographique et puis une attractivité comparative par rapport à d'autres types de programmes qui a été assez incroyable au niveau français à ce niveau-là, par rapport en tout cas à d'autres contextes au niveau international où justement les STEM, les programmes de sciences et de sciences appliquées ont eu beaucoup plus un effet d'attractivité sur les 10-15 dernières années.
Julien Jacquemin, vous êtes chercheur, vous avez beaucoup étudié ce sujet des écoles de commerce. Est-ce qu'il est facile, vous avez l'air très bien renseigné, mais est-ce qu'il est facile d'avoir accès à ces données-là, au nombre d'étudiants, comment ils se répartissent ? Est-ce que le monde des écoles de commerce, du point de vue du chercheur que vous êtes, est relativement accessible ?
Alors, c'est pas toujours facile. Il y a certaines données qui sont très très précises. Il y a par exemple le CIGEM. Donc le CIGEM, c'est un peu l'équivalent de Parcoursup au niveau des écoles de commerce pour les programmes post-prépa. Donc c'est un système d'affectation des étudiants au niveau des écoles. Et là, il y a certaines données publiques qui sont assez fines, qui sont assez intéressantes à étudier, qu'on a analysé avec certains de mes collègues, entre autres Vincent Hillet de l'Université de Rouen en Normandie. Mais à part ça, une des difficultés qu'on a pour accéder à des données, c'est qu'on a des établissements qui ont des caractéristiques en termes de gouvernance qui sont très différents. Il y a certaines écoles consulaires, il y a certaines écoles qui ont un autre statut associatif, il y a certaines écoles qui ont un statut privé à but lucratif qui appartiennent ou qui dépendent en partie de fonds d'investissement. Et pour ces écoles-là, là, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des données. Donc c'est un des challenges, c'est une des difficultés dans l'analyse d'un point de vue vue, de mon point de vue en tout cas, de chercheur, d'académique qui essaye d'essayer de trouver des preuves de ce qu'il dit au niveau des données, c'est vraiment une des grosses difficultés qu'on a, c'est d'avoir des données qui ne soient pas du déclaratif, parce que la plupart des données qui sont disponibles, principalement celles qui viennent des organes de classement, et peut-être d'une certaine mesure, mais c'est pas toujours le cas, les données qui viennent de la CEFDJ, donc qui est l'organe qui a pour but d'être un peu le policier de la qualité au niveau des écoles de commerce, aussi dispose de certaines données, mais qui ne sont pas très très fines. C'est des données principalement déclaratives, et donc il faut se méfier à chaque fois des données déclaratives lorsqu'on est chercheur, en tout cas. C'est plutôt sain de se méfier de données déclaratives, d'autant plus qu'assez régulièrement, et là il y a des cas, je ne peux pas vendre la mèche, mais il y a des cas qui sont en train d'être investigués par certains journalistes au niveau des écoles de commerce. Il y a parfois certaines écoles qui ont tendance à enjoliver certains chiffres, ce qui fait que c'est un peu difficile de pouvoir analyser des chiffres dont on a certains doutes par rapport à la qualité.
Et on revient là à la problématique du classement aussi et au poids du déclaratif. Cette absence d'information, ou en tout cas cette transparence qui laisse relativement à désirer, est moins anecdotique qu'il n'y paraît, Marianne Blanchard. En 2013, il y a eu un rapport de la Cour des comptes intitulé « Les écoles supérieures de commerce et de gestion, un développement à réguler ». Et dans ce rapport-là, il y avait déjà le fait qu'on ne connaissait pas grand-chose à ces écoles, que c'était compliqué de se procurer de l'information. Il y a un problème de transparence de façon générale, Marianne Blanchard, vis-à-vis des écoles de commerce.
Oui, il y a un problème de transparence. Alors, comme ça a été dit précédemment, ça va dépendre aussi du statut de l'établissement et du type de formation. Était évoqué hein, la CEFDG, donc la commission. Alors, j'essaye de retrouver le sigle d'évaluation des formations du diplôme à la gestion. Je dirais à peu près. Voilà, qui a été créée au début des années 2000 elle vise à attribuer ce fameux grade master. Donc, par définition, elle va essentiellement avoir des données sur ce type de formation et de même maintenant pour le grade licence. Mais globalement, on a été effectivement un flou, ne serait-ce que sur le nombre d'inscrits, sur le nombre, sur l'origine sociale, évidemment, des étudiants et des étudiantes. C'est des choses où par rapport aux formations publiques, c'est très flou. Hein. Et d'ailleurs, les écoles de commerce occupent une grande place hein, dans le récent rapport hein, de l'Assemblée nationale sur l'enseignement supérieur privé à but lucratif, puisqu'il était rappelé dans ce rapport hein, que les écoles de commerce représentent un tiers aujourd'hui des effectifs de l'enseignement supérieur privé, et que cet enseignement supérieur privé en général, c'est un continent gris, voire obscur pour la plupart des chercheuses et chercheurs qui essayent de travailler dessus.
Julien Jacquemin, vous souhaitiez réagir ?
Oui, donc l'explication de ce manque de données qui n'est pas propre aux écoles de commerce, hein, mais qui est propre à tout le système de l'enseignement supérieur français, sauf les établissements publics, c'est qu'on a en fait ce qu'on appelle une fragmentation horizontale. En fait, la plupart des ministères en France a sous son épaule plusieurs établissements d'enseignement supérieur, avec ça aille du ministère du Travail, en passant du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Économie, du ministère... Enfin, vraiment, tous les ministères ont sous leur épaule un ou plusieurs établissements. Et en fait, il n'y a pas d'organisme en France qui a pour rôle de rassembler toutes les informations par rapport aux établissements d'enseignement supérieur. Il y en a des très précis sur les universités, mais elles ne représentent qu'une partie de l'enseignement supérieur. Et donc, il y a plein d'établissements qui passent sous le radar, où on sait strictement rien à leur sujet. On ne sait pas le nombre d'étudiants, on ne sait vraiment strictement pas comment ils sont financés, ni qui y a dans les conseils d'administration, etc. Et ça, c'est clairement une spécificité du système français où il y a un point d'interrogation à ce niveau-là.
Marianne Blanchard, j'ai une dernière question pour vous pour tenter de comprendre l'accroissement très fort du secteur. Est-ce que c'est lié à un agrandissement des capacités d'accueil des structures existantes qui font toujours plus de la place, on va dire, aux nouveaux arrivants, ou est-ce que c'est lié à une augmentation du nombre d'établissements, ce qui rend par ailleurs la compétition plus rude? En 2007, on comptait 200 écoles de commerce. Est-ce que c'est un chiffre qui reste d'actualité?
Alors, je dirais que c'est une conjonction des deux. Il y a d'une part cet effet d'appel d'air avec l'accroissement des écoles existantes, soit par le nombre de places qui augmente, soit l'ouverture de nouveaux programmes. Et puis, on va avoir constamment, on va avoir des phénomènes de renouvellement aussi de l'offre par l'ouverture de nouveaux établissements, et ce en France particulièrement au cours des dernières années avec le développement de et la simplification de la mise en place de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur privé, enfin pas que dans le privé, mais en tout cas qui a fortement contribué à accroître ce secteur. Donc c'est une conjonction des deux, et c'est quelque chose qui n'est pas propre aux dernières décennies. Pour avoir analysé sur le temps long, c'est vraiment une dynamique qu'on observe depuis les années 1960. Ce double mouvement de grossissement, si on peut dire, des établissements existants, plus installés, et en parallèle, l'émergence de nouveaux établissements.
Alors, on comprend, c'est la conjonction de ces deux facteurs rend le marché, même si je sais, Marianne Blanchard, vous le dites dans votre thèse, que vous avez eu du mal à employer cette expression, on va y revenir, mais en tout cas, le marché des écoles de commerce devient donc particulièrement compétitif. Alors, qu'est-ce qui pousse les élèves à vouloir intégrer une école de commerce ? Une ancienne étudiante racontait dans Les Pieds sur Terre les raisons de son choix dans une émission diffusée le 11 février 2021 sur France Culture.
Je m'appelle Hélène, j'ai 25 ans, et quand j'ai choisi de rentrer dans une école de commerce, c'était juste après le bac, j'avais 17 ans. C'était l'IESEG. Généralement, elle est classée 7e école française de commerce. J'étais très bonne élève au lycée. Enfin, j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire. Et je me suis dit que j'allais faire une école de commerce parce que c'était la sécurité. C'était juste qu'on m'avait dit que les études étaient très sympas. On m'avait dit qu'on faisait beaucoup la fête. On m'avait dit qu'on partait beaucoup à l'étranger. On m'avait dit que j'allais rencontrer plein de monde, que les cours étaient intéressants. Et puis surtout que il y avait beaucoup de chances de trouver un boulot à la fin des écoles de commerce. Et que c'était suffisamment sélectif pour moi pour qu'à ce moment-là, je me dise « j'ai passé la sélection, ça me rassure et j'y vais ». J'avais l'impression qu'il allait pas avoir vraiment trop d'embûches. Je rentrais dans une sorte de cocon très sécurisant. J'allais suivre des cours, j'allais avoir un parcours un peu prédéfini aussi. Initialement, je pense que je suis quelqu'un d'assez inquiète pour le monde professionnel, mais aussi en règle générale dans la vie. Les écoles de commerce, c'est à peu près 10 000 euros par an. Donc c'est aussi un cocon, je sais pas comment dire, mais c'est mes parents du coup qui ont payé. Donc aussi, moi, j'avais aussi cette certitude derrière que mes parents m'accompagnaient encore, et je voulais pas les décevoir.
On entendait là un témoignage qui résume les raisons pour lesquelles une jeune étudiante peut vouloir rentrer en école de commerce, avec cette idée aussi, encore une fois, de l'importance du classement qui apparaît dès le début du témoignage. On a dit que ce classement, c'est une façon de se distinguer pour les écoles, alors les unes des autres, dans un contexte particulièrement compétitif. Il y a une autre raison avancée par la présidente du système d'intégration aux grandes écoles de management et directrice de la formation initiale à la Toulouse Business School. Les classements permettent de mesurer, selon elle, le retour sur investissement dans des écoles caractérisées par des frais de scolarité élevés. Ça aussi, Julien Jacquemin, c'est une réalité. C'est aussi ce à quoi servent ces fameux classements.
Alors, sur cette question-là du retour sur investissement, on n'a pas les données pour le dire. En fait, c'est un problème. On n'a pas la possibilité à l'heure actuelle de suivre un étudiant de son entrée à l'école de commerce jusqu'à son entrée sur le marché du travail et à son évolution au niveau du marché du travail. Les seules informations qu'on a à disposition, c'est des données d'enquête. Et là, il y a toujours des gros points d'interrogation par rapport à la représentativité de ces données d'enquête. Malgré tout, l'intuition, je pense, n'est pas tout à fait fausse. Elle est juste difficilement, c'est difficile de la prouver, en tout cas, d'un point de vue empirique à l'heure actuelle. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un peu trois catégories d'écoles. Il y a une première catégorie d'écoles qui se définit par rapport à son niveau d'exigence en termes d'admission beaucoup plus élevé. C'est ce qu'on appelle les écoles parisiennes. Donc, celles qui sont vues et perçues souvent par les étudiants, en tout cas, selon nos données, comme étant celles de meilleure de qualité. Elles ont principalement une taille relativement moyenne, moins de 10 000 étudiants, et leur core business, leurs programmes principaux, c'est leur cœur de métier, ce sont les programmes grande école et les programmes MBA, donc des programmes pour des personnes qui ont déjà eu une certaine expérience au niveau du marché du travail. Ensuite, il y a une sorte de deuxième strate, une deuxième cour de récréation. On a plutôt une dizaine d'écoles qui sont de taille un peu plus importante, parfois et assez régulièrement avec plus de 10 000 étudiants inscrits, qui sont des écoles plutôt basées en région, qui sont souvent le résultat d'une fusion et qui, elles, vont plutôt proposer des programmes, soit des programmes grande école, soit des programmes programmes post-bac qui, eux, sont énormément développés lors des 10 dernières années. Et ensuite, on a toute une série d'écoles de beaucoup plus petite taille, souvent qui ont beaucoup de difficultés à attirer des étudiants au programme grande école. Et ça pose même la question, ils n'attirent plus d'étudiants qui sont passés par les écoles prépa. Est-ce que ce sont encore des grandes écoles? Est-ce qu'on peut encore les qualifier ainsi, alors qu'à la base, c'est ça qui définit une grande école et qui se concentre principalement sur le post-bac et qui surtout, et j'imagine c'est quelque chose qu'on va en parler par la suite, se sont développés, ou en tout cas ont grandi grâce à l'alternance qui a été mise en place en 2018 en France et qui a offert à certaines de ces écoles une manne financière qui permettait indirectement aux étudiants de financer leurs études supérieures. Et donc, ce qu'on observe au niveau des données, c'est vraiment qu'il y a cette forte différenciation perçue, qui est une différenciation qui est liée par rapport à un indice de sélectivité, plus que par une différenciation en termes de programme, qui est quelque chose dont les écoles font beaucoup de marketing et beaucoup de communication à ce sujet, mais il semble, en tout cas des données qu'on a, que c'est vraiment le rang qui décide et qui a un impact plus important sur les choix d'orientation des étudiants plutôt que les spécificités des programmes.
Donc il y a un enjeu de modèle économique, mais aussi un enjeu très, très symbolique aussi dans cette compétition-là. Vous avez distingué trois groupes, Julien Jacquemin, Marianne Blanchard. On pourrait distinguer aussi trois autres groupes. On en revient là aussi à la frontière de la reconnaissance, notamment par l'État. Il y a les écoles reconnues par l'État et dont au moins un diplôme est visé par le ministère. Un groupe où les écoles sont seulement reconnues par l'État et un troisième groupe qui réunit les écoles sans aucune reconnaissance étatique. De ces trois groupes-là, lequel compte le plus d'écoles ?
Alors ça, ce sont des groupes, en fait, c'est une classification qui est assez peu utilisée en dehors des services statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ces groupes, maintenant, c'est le premier groupe quand même qui va être le plus reconnu, puisque on va avoir des strates, en fait, historiques d'écoles qui, au départ, vont être peu ou pas reconnues, uniquement reconnues par l'État, et puis qui, au fil des années, pour celles qui survivent, puisque c'est un marché compétitif et donc certains établissements ferment, mais vont obtenir une meilleure reconnaissance, notamment par l'État.
Et j'en reviens, Julien Jacquemin, à cette question de l'importance aussi du positionnement symbolique en termes de réputation également. Certains établissements, et notamment post-bac, vous avez indiqué que ces établissements-là fleurissaient ou en tout cas étaient très très dynamiques. Certains ne parviennent pas à remplir leur classe. L'ESDES, par exemple, a proposé une admission à 1146 candidats en 2024. Seuls 27 ont fait ce choix. Idem pour la Paris Business School, qui a proposé 250 places et envoyé 2257 admissions, seuls 91 lycéens ont fait ce choix. Ce ne sont pas finalement les établissements qui choisissent leurs élèves, mais l'inverse, ça fait aussi partie de la spécificité de ce marché-là, Julien Jacquemin.
Oui, donc ça va vraiment dans les deux sens. L'étudiant doit choisir son école et l'école doit choisir son étudiant. Et les écoles du haut du tableau peuvent choisir leurs étudiants, mais celles en bas du tableau, c'est sûr qu'elles ont beaucoup plus de difficultés à attirer des étudiants. Et là, vous citez des établissements qui ont certaines difficultés, mais il y en a qui ont encore plus de difficultés. Ce sont ceux qui sont vraiment en dehors des classements. Et le problème, c'est qu'on a vu émerger donc ces établissements principalement à privés à but lucratif ces dernières années, qui ont été facilités par l'émergence de la réforme, la mise en place de la réforme de l'apprentissage. Et pour l'instant, je dirais que les années à venir vont être plutôt florissantes, parce qu'on va voir une situation démographique qui sera très avantageuse dans les 10 prochaines années, qui sera un peu meilleure qu'à l'heure actuelle. Mais après, on va avoir une grosse diminution au niveau démographique, avec une diminution des potentiels étudiants. Et là, on risque d'avoir des grosses difficultés d'un point de vue financier au niveau de certains établissements, avec la question de qu'est-ce qui va se passer, entre autres pour certains établissements consulaires. Est-ce que certaines chambres de commerce vont se dire non, on peut plus vous aider financièrement, ça devient compliqué. Donc, on va essayer de vous revendre potentiellement à des fonds privés, à des fonds private equity, donc des fonds de capital investissement, mais qui n'auront pas vraiment d'ancrage local. Et ça, c'est vraiment la grosse tendance qui risque d'émerger dans les années à venir. Il y a déjà deux écoles relativement reconnues, l'ICN Nancy et le MLV, qui sont passés sous statut privé à but lucratif l'an passé, qui sont fait racheter par des fonds d'investissement privés ou par des consortiums de fonds d'investissement privés. Et c'est vrai que c'est une tendance de fond dans le système, en sachant que au niveau français, la régulation est plutôt accommodante à ce sujet-là, que l'alternance, bon, ils ont mis certains freins d'un point de vue financier à ce sujet-là, mais plutôt relativement accommodante pour ces établissements-là. Et la régulation est extrêmement accommodante par rapport à ce qu'on observe dans d'autres pays, et principalement européens, où on voit strictement aucun établissement financé par ce type de fonds d'investissement et émerger.
On va voir comment cette relation, notamment à l'État, a fluctué au cours du temps très long, et ce qui explique aussi cette régulation plutôt accommodante, comme vous le disiez, Julien Jacquemin. Avant cela, Marianne Blanchard, je trouve que cette idée d'une sélectivité, mais qui va dans les deux sens, finalement, à la fois de la part de l'offre, mais aussi de la demande, est intéressante. Vous parlez dans votre thèse d'un marché jugement. Marianne Blanchard, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Et puis pourquoi, dans un premier temps, vous avez quand même été, je le reprécise, mais réticente à utiliser l'expression de marché au départ concernant les écoles de commerce?
Oui, alors je vais d'abord répondre sur ce point. C'est vrai que la notion de marché, elle était presque tout le temps employée par les personnes que j'ai été amenée à rencontrer dans le cadre de ma thèse, donc notamment des directeurs d'établissement, des enseignantes-enseignants. Et c'est vrai que, bon, ça c'est un réflexe de sociologue de toujours se dire, est-ce que ce terme indigène, entre guillemets, est le plus pertinent et le plus adéquat, et qu'est-ce qui révèle en fait? Parce que c'était à la fois une vision de l'école comme entreprise, et donc avec tout le vocabulaire de l'entreprise, des clients, de vendre les produits appliqués aux écoles. Mais c'était aussi une sorte d'idéal à atteindre, hein, le libre marché avec sa main invisible qui régulerait les flux d'étudiants, voilà, et qui est une représentation qui correspondait finalement assez peu à ce qui restait quand même des établissements de formation avec un encadrement par l'État, avec un rôle des collectivités locales, et puis où le prix n'intervenait pas vraiment dans l'ajustement entre l'offre et la demande. Donc voilà, j'avais envie de, tout en considérant qu'effectivement c'était une clé de lecture importante pour comprendre toute cette ce travail marketing, de travail sur l'image de soi, de présentation de soi extrêmement important dans ces écoles. Moi, j'avais été fascinée de découvrir qu'il y avait tout un groupe de personnes dont le but était simplement d'aller regarder, hein, déjà dans les années 2000, mais l'image de l'école, faire une veille dans les médias, en ligne, etc., et de travailler sur les plaquettes de présentation, etc., enfin, chose qu'on n'avait absolument pas à l'université. Et donc, pour revenir sur la question de...
Du marché jugement, oui.
Voilà, du marché de jugement, c'est que finalement, on est sur un bien symbolique. C'est quelle valeur va me donner le diplôme de cette école sur le marché du travail, quelle distinction il va produire, et donc comment je peux mesurer, moi, potentiel étudiant, étudiante, la valeur de ces écoles. Et donc il va falloir s'appuyer, donc on en a déjà parlé, sur les classements, les accréditations, sur l'image qu'on se fait. Et d'où tout le fait qu'effectivement, il y a un jeu de séduction très fort pour attirer, retenir les candidats de la part des établissements.
Et on pourrait se dire que ce jeu de séduction fonctionne, en tout cas relativement. En 2024, Marianne Blanchard, 6 écoles françaises figuraient dans le top 10 du Financial Times, hein, qui fait un peu référence en matière de classement. Est-ce qu'il existe une spécificité de l'enseignement à la française dans ces écoles de commerce?
Alors, je ne sais pas s'il existe...
Parce que c'est quand même intriguant, oui.
Oui, c'est intriguant, mais je dirais que, paradoxalement, le fait que cette compétition soit extrêmement intense en France les a fait se saisir, en fait, de tout ce qui pouvait faire distinction. On parlait tout à l'heure des accréditations. Il y a deux grandes accréditations. Il y a la ACSB, qui est l'accréditation des États-Unis, et puis l'accréditation EQUIS, qui est une accréditation européenne. Et ces accréditations apparaissent toutes les deux à la fin des années 1990. Et l'une est HEC va se faire accréditer EQUIS, l'ESSEC va se faire accréditer à CSB. Et en fait, dans un temps quasiment, je dirais, record, alors je ne sais pas, mais par rapport aux autres pays, on voit que très vite, toutes les écoles qui ont du haut et du milieu du tableau, pour reprendre cette image, vont elles aussi obtenir ce qu'on a cherché, ou du moins obtenir la double accréditation. Et donc, on peut dire que le classement du Financial Times va jouer de la même façon, c'est-à-dire que dès lors qu'une école va rentrer dedans, les autres vont s'efforcer de répondre aux critères, parce que c'est un nouveau tampon, c'est un nouveau label qui va permettre de se distinguer sur ce marché de jugement.
France Culture, entendez-vous l'écho. Aliatovine.
Julien Jacquemin, j'ai une question piège pour vous, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui différencie les écoles de commerce entre elles, selon la façon dont on les classe, dont on les regroupe aussi. Et on pourrait aussi se demander ce qui les rassemble. Il n'est jamais trop tard pour se poser la question. Au fond, Julien Jacquemin, qu'est-ce qu'une école de commerce ? Qu'est-ce qui est le plus petit dénominateur commun de toutes ces écoles ?
En tout cas, au niveau français, il y en a principalement deux. Il y a les chambres de commerce. Donc, ils sont à l'initiative de ces écoles. Et je pense, pour revenir à ce dont on a discuté avant, c'est ce qui explique pourquoi les écoles de commerce françaises sont si bien classées d'un point de vue international selon le Financial Times. C'est que ces établissements ont émané des chambres de commerce avec un lien important historiquement avec les autorités locales, qu'elles soient économiques ou politiques. Et elles sont indépendantes des universités. Si vous êtes un établissement dépendant des universités, vous avez des obligations en termes de solidarité par rapport aux autres formations. Et donc, vous devez participer au bien commun de l'établissement pour aider à financer l'hôpital universitaire, aider à financer certaines disciplines qui coûtent très cher et qui attirent peu d'étudiants et dont la recherche coûte très cher. Et donc, c'est le fait d'avoir cette indépendance et d'avoir émané historiquement de ces chambres de commerce leur a donné historiquement beaucoup d'indépendance, qui leur a permis de performer, pour utiliser un terme qui est adapté ici, je pense, dans le classement du Financial Times. Et l'autre dénominateur commun, en tout cas au niveau français, pour moi, c'est vraiment qu'il y a un système de sélection qui est vraiment très particulier dans les grandes écoles de commerce. C'est l'école préparatoire qui a un système où on a des étudiants qui, et ça c'est un peu unique à la France, où pendant 2 ans, ils vont dans une formation qui est non diplômante, et où des étudiants vont pendant 2 ans s'entraîner pour réussir un examen d'entrée. Et ça, c'est assez unique. Et pour moi, historiquement, c'est vraiment ça, les deux spécificités, les deux dénominateurs communs de ces formations, d'un point de vue en tout cas institutionnel.
Alors là, Julien Jacquemin, vous me fournissez une transition toute trouvée pour revenir aux racines aussi de la façon dont ces écoles de commerce ont commencé à apparaître sur le territoire français. On parle de sélectivité, d'attractivité, ce n'a pas toujours été le cas, en tout cas pas au tout début. Tout cela est le fruit d'une longue évolution et d'une construction aussi de ce marché des écoles de commerce. Une construction et une légitimation qui prend du temps. Et tout commence à la fin du 19e siècle, comme le raconte Jacques Siegfried dans son ouvrage « Les écoles supérieures de commerce ».
Pour maintenir notre patrie au rang qui lui est dû, la première chose à faire, et la plus importante, me paraît être, sinon une réforme complète, du moins des changements considérables dans notre enseignement. L'instruction que donnent nos lycées peut être excellente pour un petit nombre de nos compatriotes, mais elle tombe à faux pour la majorité d'entre eux. Nous avons trop de littérateurs, trop d'avocats, trop de candidats à tous les emplois du gouvernement. Nous ne formons pas assez de gens pratiques, d'une éducation moins brillante, mais plus positive. Nous connaissons à fond la mythologie grecque et les limites de l'Empire d'Alexandre, mais nous ne savons que peu de choses en fait de géographie moderne. Nous lisons le grec et la plupart d'entre nous savent plus ou moins le latin. Mais quels sont ceux de nos écoliers qui parlent l'anglais ou l'allemand ? Or, quand on veut voyager avec fruit, que ce soit comme fils de famille désireux de compléter son instruction, ou qu'on le fasse avec l'ambition d'améliorer son sort en allant chercher fortune au loin, il faut savoir les langues vivantes, la géographie et l'histoire moderne. Il faut posséder quelques notions d'économie politique et de droit international. Il faut enfin être un peu au courant des usages commerciaux des différents peuples. Il est bon de connaître toutes ces choses, non pas seulement lorsqu'on désire voyager, mais encore pour être chez soi un bon citoyen, d'un jugement sain, sachant apprécier tous les progrès par la comparaison avec ce qui se passe ailleurs.
» Une lecture par Anouk Milliot de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste et professeur associé à Neoma Business School Julien Jacquemin et de la sociologue et maître de conférence à l'université Jean Jaurès Marianne Blanchard. Et je rappelle Julien Jacquemin que vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ici à Rouen et c'est Cyprien Delimerville qui assure le duplex et je l'en remercie chaleureusement. Marianne Blanchard, ce texte qu'on vient d'entendre à l'instant, se situe dans un contexte très particulier, ce sont les années 1870, il y a une forme de prise de conscience, on l'entendait à l'instant, il faut dire que le contexte joue beaucoup, c'est la défaite de la France face à la Prusse en 1871. Qui se saisit de la question de la praticité des enseignements dispensés? Il faut peut-être là revenir sur ce personnage de Jacques Siegfried qui porte ce message.
Oui, alors il faut revenir sur le personnage de Jacques et son frère, oui. Jules. Voilà, donc ce sont en fait deux négociants de coton qui accumulent en fait une importante fortune par leur commerce et qui sont convaincus que la France doit acquérir un rang plus important sur la scène commerciale internationale. Il y a eu un traité des accords de libre-échange avec l'Angleterre, qui est alors la grande puissance coloniale et commerciale. Et donc, il y a l'idée pour eux de former des jeunes gens à une éducation plus pratique, hein, comme on l'a entendu dans l'extrait. Et ils vont fournir une somme assez importante à la société industrielle de la ville de Mulhouse où ils habitent et ils ouvrent un premier établissement dans cette ville. Alors, il existe déjà à ce moment-là une école de commerce, hein, c'est l'école supérieure de commerce de Paris, qui elle a été créée en 1819. Là aussi, derrière, il y avait les idées de Vital Roux, qui lui aussi avait écrit un négociant lyonnais, qui lui aussi pensait qu'il fallait enseigner la législation commerciale, la comptabilité, dans un lieu scolaire, en disant que c'était bien plus efficace que sur le tas. Et donc, ces frères vont ouvrir cette école qui ferme quelques années après, suite à la défaite face à ce qui devient alors l'Allemagne. Et on est dans ce contexte donc là plus général où on va avoir l'idée que finalement l'Allemagne a gagné parce que c'était un pays où les élites notamment techniques étaient mieux formées. Et donc il va y avoir, alors ça va contribuer énormément spécifiquement au développement des formations d'ingénieurs, mais aussi aux formations commerciales parce qu'on va avoir des associations, des groupements de personnalités locales, d'élus, d'entrepreneurs, etc., qui vont essayer de développer des enseignements sur leur territoire.
Donc on le comprend, il y a quelque part deux logiques. Il y a à la fois celle d'un échelon très local, qui est très liée aux négociants que vous évoquiez, cette initiative privée aussi, l'idée de correspondre aux besoins d'une industrie locale donnée, cette idée plus large aussi, de participer à la grandeur de la France dans un contexte où on vient de perdre, mais tout de même de participer au rayonnement national. Alors vous l'avez dit, tout commence en 1819 hein, avec le SCP dont Auguste Blanqui fut le directeur. Je renvoie les auditeurs, les auditrices à l'émission que nous lui avions consacrée. Le 17 novembre 1957, je fais un petit saut dans le temps, mais vous allez comprendre pourquoi, le directeur d'HEC, Monsieur Perrin, revenait sur les origines de son école et son ambition à l'occasion de son 75e anniversaire, l'anniversaire de l'école et non pas de M. Perrin. C'était dans l'émission Paris vous parle.
C'est la Chambre de commerce de Paris qui, en 1881, a fondé cette école pour être la pépinière dans laquelle se formeraient les futurs dirigeants de nos entreprises commerciales, industrielles, financières. Pendant ces trois quarts de siècle, l'école a cru et prospéré et actuellement, les promotions de 260 élèves sont recrutés par un concours difficile et se forment pendant 3 ans à la culture générale et acquièrent un bagage technique et une formation pratique qui les met tout à fait au point pour les fonctions qui leur sont dévolues.
Fonctions qui sont d'ailleurs appréciées. Et je crois que c'est un peu pour cette raison que vous entendez célébrer avec éclat le 75e anniversaire.
Oui, c'est une jeunesse extrêmement vibrante, portée beaucoup vers les questions sociales, vers les questions internationales également, faisant des stages nombreux et longs dans les pays étrangers. Cette année, par exemple, en été, 350 garçons sont allés dans 21 pays. Et nous avons tenu à ce que cette commémoration fut marquée par le concours d'un grand nombre de délégués appartenant à divers pays étrangers.
L'école des HEC ouvre en novembre 1881. Dès 1867, c'est le président de la Chambre de commerce de Paris qui avait commencé à réfléchir à la création d'une telle école. En 1869, il avait saisi la Chambre d'un projet d'établissement pour les fils de la bourgeoisie qui serait pour le commerce que l'école centrale est pour l'industrie. Là, on en revient, Julien Jacquemin, à une expression que vous avez déjà employée au cours de cette émission, l'expression d'école consulaire. Il faut nous aider à bien comprendre le lien peut-être entre ces fameuses chambres de commerce et d'industrie et l'établissement de ces écoles de commerce un peu partout en France.
Alors comme ça a été indiqué, il y a un lien historique au niveau de la création, mais il y a encore un lien qui persiste aujourd'hui, à l'heure actuelle et qui lui se traduit principalement par la présence de ces établissements au niveau des conseils d'administration de ces écoles et qui ont leur mot à dire sur le développement local de ces établissements et qui s'assurent qu'effectivement il y a un rayonnement non seulement international mais également au niveau local de ces établissements à travers les étudiants qui viennent étudier chez eux, dont une partie non négligeable, mais ça on ne le sait pas vraiment, c'est assez difficilement quantifiable, dont une partie non négligeable vont peut-être rester dans la région dans laquelle ils ont été étudiés, et aussi au niveau de leurs activités de recherche, vu que c'est quelque chose qui est peut-être là un peu plus récent, mais essayer de s'assurer qu'il y a un lien entre ces deux activités principales des établissements et l'ancrage local de l'établissement concerné.
Julien Jacquemin, vous avez dit qu'elles ont leur mot à dire, mais au nom de quoi ? Est-ce que c'est au nom d'un financement éventuel ?
Oui, c'est un financement, c'est, et puis c'est aussi une légitimité historique, quoi. C'est eux qui les ont développés, ces établissements. Enfin, c'est comme tous les établissements d'enseignement supérieur, il y a un ancrage local très fort, pour des raisons physiques, parce qu'on va en classe, on va travailler dans ces lieux-là, on a une interaction avec l'écosystème local, et ça, c'est vraiment un ancrage historique, un héritage historique qui reste toujours à prouver. Hein. C'est pas quelque chose qui est éternel,
et c'est dans
lequel vraiment les écoles mettent beaucoup d'emphase et essayent de s'assurer que cet ancrage reste tout aussi présent maintenant qu'il y a plus d'une centaine d'années, alors qu'il y a eu toute une série d'écoles qui ont été créées.
Et puisqu'on reste sur cet ancrage local, Marianne Blanchard, il faut aussi signaler le poids et le rôle aussi des collectivités locales. On peut citer l'exemple de la ville de Rouen qui, entre 1907 et 1940, verse plus de 75% des subventions que reçoit l'ESC. Ça aussi, ça compte beaucoup, Marianne Blanchard.
Oui, alors je voudrais d'abord, si vous me permettez, rebondir par rapport aux chambres de commerce. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on a un statut en fait spécifique qui a été créé en 2014, hein, qui est le statut d'établissement d'enseignement supérieur consulaire, qui permet aux chambres de commerce de rester acteurs, puisque pour avoir ce statut, il faut qu'elles détiennent au moins 51% du capital de l'établissement, mais qui permet aussi de faire intervenir des investisseurs privés au maximum d'un tiers, 33%, et puis des collectivités territoriales. Et en fait, ce statut, ça va me permettre de répondre à votre question. C'est en fait un bricolage spécifique ad hoc. Le statut a été d'ailleurs créé d'abord à la demande de la Chambre de commerce de Paris et d'HEC, parce que ça permet à la fois de garder cet ancrage historique de ce poids des écoles de commerce. Ça permet aux collectivités territoriales d'intervenir. Ce qui avait été pour certaines écoles qui avaient choisi le statut associatif, comme à Nantes ou depuis Audencia, où depuis longtemps on avait la ville qui participait aussi au financement. Et ça, c'est la nouveauté de ce statut, néanmoins de faire intervenir des investisseurs privés. Mais vous voyez, c'est limité à 33%, c'est-à-dire que on veut quand même que le local reste primordial. Et ça, historiquement, on l'a vu à des degrés divers, mais on va avoir les villes, les métropoles, les régions qui s'investissent sur ces écoles parce que, et dès le départ, hein, elles sont lues aussi comme un facteur de dynamisme économique parce que ça va faire venir des étudiants que peut-être ils s'installeront, plus tard ils feront des stages dans les entreprises, etc.
Il y a cette question de l'attractivité, il y a aussi une question de prestige, j'imagine, qui est assez liée aussi au fait d'avoir son école sur place, et surtout à une époque, alors c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, notamment dans le contexte des fusions, mais l'idée de pouvoir accoler le nom de la ville au nom de l'école, ça permettait aussi de participer à ce prestige-là, Marianne Blanchard.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, on le voit quand il y a des projets d'écoles locaux qui sont portés, c'est vraiment de dire, voilà, donc par exemple à Marseille, on dit il y a toute une liste des autres écoles qui ont été ouvertes et de dire il faut un établissement qui répond à l'importance de notre cité. De la même façon, quand Toulouse, l'école supérieure de commerce de Toulouse ouvre en 1902, on va lister les autres villes qui ont des écoles et dire bah il en faut une aussi qui corresponde à l'importance de notre ville.
Marianne Blanchard, je reprends le fil, le cours de l'histoire, parce qu'il y a une question qui me fascine, je dois l'avouer, et qui est très en lien aussi avec tout ce qu'on vient d'expliquer sur les écoles de commerce et puis sur ce lien aussi entre attirer et en même temps sélectionner. Est-ce qu'au départ, lorsque les écoles de commerce commencent à fleurir un peu partout en France, dès les années 1880, alors même si elles vont connaître un succès plus ou moins grand, est-ce qu'on arrive à persuader, à convaincre les familles d'y placer leurs enfants, puisqu'après tout, diriger l'entreprise, on pouvait se dire que ça se passait de père en fils, de père en fils. Oui. Est-ce qu'il y avait besoin de convaincre, enfin, comment on est parvenu à convaincre de la nécessité qu'il y avait un enseignement spécifique vis-à-vis de la direction d'entreprise?
Oui. Alors oui, c'était bien père en fils, hein, parce que ces écoles ne sont même pas ouvertes aux filles avant la Première Guerre mondiale pour certaines d'entre elles et les années 1970 pour HEC. Mais il y a une grande difficulté de convaincre parce que on doit payer, le fils ne peut pas aider. Enfin voilà, donc il y a toutes ces difficultés. En fait, ce qui va créer un premier appel d'air pour ces écoles, c'est cette fois Jules Siegfried, qui lui est élu député et qui à la fin des années, alors il y a une loi militaire qui est passée qui fait passer le service militaire à 3 ans, mais on a une réduction de 2 ans si on est diplômé de certains établissements. Et donc Jules Siegfried, qui est député, parvient à faire mettre les écoles supérieures de commerce sur la liste de ces établissements. Et donc ça devient très intéressant d'intégrer une de ces écoles puisque on ne fait pas le service militaire long. Et puis ces écoles sont assez faciles à intégrer puisque le baccalauréat n'est pas exigé à ce moment-là. Donc c'est ça finalement qui va lancer, on peut dire, l'attrait pour ces écoles. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir une deuxième vague au début dans ces années 1890-1900 d'ouverture d'établissements.
Il y a cette vague-là et puis les choses vont s'accélérer en fonction des contextes à la fois économiques et puis diplomatiques, géopolitiques aussi d'une certaine manière en fonction des conflits. Vous l'avez dit, les écoles ouvrent très progressivement leurs portes aux jeunes filles dans les années 1910-1920. En 1920, les écoles supérieures de commerce sont rattachées au ministère de l'Instruction publique. La délivrance de diplômes est désormais unifiée. Est-ce que c'est pour autant tout cela, ce regain-là signifie pour autant la fin des difficultés financières pour ces établissements, Marianne Blanchard?
Alors, ces écoles vont être vraiment dépendantes des fluctuations économiques. Donc, les années 20, ce sont des années de prospérité et ça se reflète sur le recrutement des écoles. Et par contre, les années 30 sont des années de crise, y compris pour les écoles. Et c'est uniquement à partir de la seconde moitié du XXe siècle où là, il va vraiment y avoir une stabilisation du recrutement parce que on est dans la phase de première explosion scolaire avec à la fois les enfants du baby-boom, donc plus d'enfants, mais aussi un allongement de la durée des études, et ce qui va créer, en fait, ce qui va amener un nombre important d'étudiants et d'étudiantes, notamment vers ces formations, pas que. On est dans toutes les formations croissent à ce moment-là. Mais donc, à partir de là, elles vont avoir globalement, il y a des exceptions, mais beaucoup moins de difficultés de recrutement. Et puis, avec le temps, elles ont commencé quand même à acquérir une certaine légitimité auprès des milieux économiques.
Alors, les choses s'accélère aussi puisque nous sommes dans cette seconde moitié du XXe siècle. En 1964, les écoles supérieures de commerce sont rattachées à la direction de l'enseignement supérieur. C'est une forme de reconnaissance aussi. Dans les années 60, ces écoles-là deviennent des SCAE. Alors, on pourrait raconter beaucoup de choses sur cette dénomination-là. Elles sont présentes dans 15 des 22 régions françaises. Est-ce que, au tout début des années 60, Marianne Blanchard, les écoles de commerce font pleinement partie du système ou est-ce qu'elles restent relativement marginalisées ou est-ce qu'elles font partie déjà dans l'imaginaire collectif de ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes écoles?
Alors, Elle reste marginalisée. On le voit. Ça m'avait amusé de voir que dans La noblesse d'État, donc le livre de Pierre Bourdieu, il fait un de ces schémas où il projette le champ des établissements d'enseignement supérieur et ce qu'il appelle alors les ESCAE, donc écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises, sont vraiment les toutes petites écoles qu'il appelle les écoles refuges et auxquelles il daigne même pas accorder à peine quelques lignes dans son ouvrage. Qui date de 1989. Donc, on le voit, bon, après, de là où il est écrit, ancien élève de l'école normale supérieure, etc., universitaire, ça ne reflète pas nécessairement la vision globale, mais en réalité, si, parce que elle reste avec un recrutement très local dans les années 60. Ce ne sont pas les mêmes classes, ce sont pas des classes préparatoires aux grandes écoles telles qu'on les entend. C'est une formation déjà qui dure un an, qui est organisée localement, puisque ces écoles, quand on les prépare, on doit choisir à quelle école on souhaite intégrer en amont. Donc, si on habite à Marseille, on va présenter l'ESCAE Marseille. Si on habite à Toulouse, on va présenter celle de Toulouse et on va préparer dans la classe préparatoire, souvent financée par la Chambre de commerce, le concours à cet établissement.
Marianne Blanchard, il y a un autre point que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans votre thèse et qui concerne aussi ces années 60-là. Il y a certes la quête d'une reconnaissance académique, il y a aussi celle d'une reconnaissance dans la sphère économique. Ce sont aussi des années où on se rend compte que le prestige d'un établissement dépend aussi des positions sociales auxquelles ces diplômés peuvent accéder. Les 30 Glorieuses sont un moment de boom économique, vous l'avez dit, les écoles de commerce sont très dépendantes finalement des conditions plus globales, macroéconomiques. Ces 30 Glorieuses sont l'occasion d'imposer une forme de légitimité aussi de la part des écoles de commerce qui ne sont plus seulement des écoles de commerciaux mais aussi des écoles de cadres. C'est comme cela aussi qu'elles parviennent à asseoir une forme de légitimité.
Oui, tout à fait. Et quelque part, on peut y voir l'échec du projet originel, notamment des frères Siegfried, puisque pour eux, l'enjeu, c'était d'ennoblir aussi la profession commerciale en lui donnant une vraie formation, etc. Et finalement, c'est en se distanciant du commerce, en s'appelant école aussi de commerce et d'administration des entreprises, c'est en se distanciant de cette fonction commerciale que les écoles vont acquérir une légitimité et se présentent au même titre que les écoles d'ingénieurs comme des écoles qui forment des cadres d'entreprise, des cadres administratifs, des cadres commerciaux éventuellement, mais essentiellement voilà, des cadres avec ce groupe social qui prend énormément d'importance à ce moment-là.
Julien Jacquemin, on pourrait faire un parallèle avec aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les écoles de commerce, les écoles supérieures de commerce, qu'est-ce qu'on cherche à former? Alors, dans les années 60, il y avait une très grande influence américaine aussi sur comment on pensait le management. Aujourd'hui, ce sont des écoles de quoi? De commerciaux, de cadres, d'ingénieurs. Comment les choses ont-elles évolué?
Alors déjà, ce ne sont plus des écoles de commerce, ce sont des business schools, donc exactement. C'est vraiment la dimension internationale qui a pris le pas. Malgré tout, il y a un ancrage local qui reste encore très fort, mais qui est mis en danger aussi par l'émergence de nouveaux acteurs privés à but lucratif financé et créés par des fonds d'investissement privés et qui, eux, s'intéressent plutôt à faire du chiffre et à profiter d'une régulation très accommodante au niveau de l'alternance, ou pour juste vous donner des chiffres, c'est de 20 à 25 milliards, donc qui est l'équivalent du budget total de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui ont sauté sur l'aubaine pour essayer de développer, soit pour racheter des écoles, soit pour créer de nouveaux programmes, et où là, justement, on ne va plus dans un modèle international avec un ancrage local, mais plutôt avec un modèle globalisé ou mondialisé. On va avoir des formations très uniformisées qui seront données de la même manière à Paris, à Angers, à Dakar ou à Singapour, et qui pourront être données par n'importe qui. On a vraiment une uniformisation du contenu qui est donné, qui permet d'avoir un potentiel retour sur investissement, parce que pour eux, c'est surtout ce qui les intéresse, c'est le retour sur investissement, et qui peut non seulement mettre en danger le marché avec ces nouvelles pratiques qui sont mises en place pour essayer d'attirer des étudiants, mais qui aussi peuvent mener à une forme de mimétisme de la part de certains acteurs qui sont déjà présents depuis longtemps dans le secteur, qui peuvent se dire, bah tiens, moi, le seul moyen pour moi de survivre et de continuer à attirer des étudiants, c'est aussi d'utiliser les mêmes pratiques, principalement principalement en termes de marketing et de communication, et d'avoir des dépenses de marketing et de communication qui peuvent exploser et qui peuvent poser certaines questions, parce qu'en quoi est-ce que ces dépenses sont liées avec les missions que ces institutions sont supposées accomplir pour leurs donneurs d'ordre au niveau local et principalement leur ancrage local qui vient historiquement en tout cas et encore beaucoup à l'heure actuelle des chambres de commerce.
Et on voit là que l'internationalisation qui prend toute sa force, hein, toute son ampleur aussi dans les années 80 et qui vous fait parler, Marianne Blanchard d'ailleurs, pour le coup, véritablement d'un marché de ces écoles de commerce a des conséquences encore aujourd'hui. Je voudrais vous citer le témoignage d'un diplômé d'un MBA de la Bocconi School of Management, une école milanaise. En cours, on nous a appris que nous ne sommes pas de simples étudiants mais des investisseurs de l'école. J'ai réglé 45 000 euros pour mon inscription et qu'on avait donc tout intérêt à ce que l'école grimpe dans les classements. Le cas échéant, notre diplôme perdrait en valeur. On retrouve là les problématiques que nous avons abordées en début d'émission autour de notions de classement et d'accréditation et d'une potentielle dérive du système dans son intégralité. Un grand merci à tous les deux, Julien Jacquemin et Marianne Blanchard, d'avoir participé à cette émission. Toutes les références de vos ouvrages seront sur la page du site Entendez-vous l'écho.